Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la plus célèbre de nos tours, la Tour Eiffel, bien sûr. Elle est née lors d'un concours lancé pour l'exposition universelle de 1889 pour symboliser le centenaire de la Révolution française. Et le principe du concours, il était plutôt simple. Il fallait présenter un projet pour élever sur le champ de Mars une tour en fer à base carrée de 125 mètres de côté à la base et de 300 mètres de hauteur. L'une des conditions était aussi la possibilité d'utiliser la tour pour des expériences techniques ou scientifiques. Et donc, c'est l'entreprise Eiffel qui gagne ce concours avec un projet qui colle parfaitement aux critères imposés. La construction commence donc en janvier 1887. Mais les Parisiens à l'époque ne sont pas du tout contents. Ils trouvent la tour moche et ils mettent en place une pétition pour tout arrêter. Mais leur protestation ne sert à rien et en 2 ans, 2 mois et 5 jours, la tour est terminée. Savez-vous qu'elle était censée être démontée 20 ans après sa construction ? Mais non, finalement, on a fini par s'habituer et on l'a gardée. Non, en fait, la tour sert aussi pour des expériences scientifiques dans différents domaines. Le premier domaine, c'est celui de la météorologie. Dès 1890, une station est installée au sommet de la tour par le Bureau central de météorologie. Elle permet la réalisation de relevés de température, de pluviosité, c'est-à-dire de la pluie, de direction des vents et de pression atmosphérique. La spécificité des enregistrements de la tour, c'est qu'ils étudient l'air libre. Parce qu'avant, il y avait bien sûr des observatoires de montagne, mais même accrochés au plus haut sommet, ils restaient près du sol. Le deuxième domaine pour les expériences scientifiques, c'est celui de l'aérodynamique. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas du tout experte en la matière. Donc, pour vous expliquer très brièvement, en fait, en 1904, Eiffel a repris les travaux d'un physicien qui s'appelle Louis Cailleté et il a mené toute une série d'expériences sur la chute des corps lourds et il a étudié leur résistance à l'air. En fait, la Tour Eiffel a été le tout premier laboratoire aérodynamique qui a fixé dans le monde entier les règles de l'aéronautique. Mais c'est surtout le troisième domaine qui a empêché la destruction de la tour, c'est le lancement de la télégraphie sans fil. Donc en 1903, le capitaine Gustave Ferrier cherche à établir un réseau télégraphique sans fil, sans le financement de l'armée, qui ne le soutient pas, dans la mesure où elle privilégie à cette époque les signaux optiques et les pigeons voyageurs jugés plus fiables. Malgré ça, Gustave Eiffel soutient à ses frais le projet du capitaine. Il accepte d'installer une antenne au sommet de sa tour. Et l'expérience se révèle être un succès. Et on sait maintenant à quel point il s'agissait d'une technologie d'avenir. Dès 1912, soit 9 ans après son installation, le réseau émet dans le monde entier. Et 4 ans plus tard, l'antenne va se révéler décisive puisqu'elle permettra de capter le radiogramme de la victoire et de déjouer l'attaque allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui était dans un premier temps un réseau à usage strictement militaire va basculer vers un usage civil à partir des années 20. Donc à partir de 1921, des programmes radio sont régulièrement diffusés depuis la Tour Eiffel. Donc Radio Tour Eiffel, bien connue des Parisiens, sera officiellement inaugurée le 6 février 1922 et elle diffusera de la musique, des chroniques et un journal parlé. Le sommet de la Tour Eiffel a ainsi été modifié au fil des ans pour pouvoir accueillir des antennes toujours plus nombreuses et les premiers essais de télévision datent de 1925 à partir de la tour. Alors, je vais essayer de vous donner quelques infos intéressantes, enfin j'espère, sur notre fameuse tour. Déjà, dès sa construction, ça n'a pas été si compliqué, puisqu'au final, il s'agit d'un grand mécano géant préparé à l'avance dans les ateliers Eiffel. Elle pèse à peu près 10 000 tonnes, ce qui représente à peine 4 kg par centimètre carré. Les 2 premiers mois, les ascenseurs n'étaient pas fonctionnels, donc les visiteurs devaient emprunter les escaliers pour accéder aux étages et ça prenait environ 1 heure. La tour Eiffel doit être repeinte tous les 7 ans avec l'équivalent de 16 tonnes de peinture. Donc aujourd'hui, on est à la 19e couche. D'ailleurs, elle n'a pas toujours été brune. Au début, elle est restée jaune pendant une courte période. Et puis, elle a aussi été peinte en rouge-brun. En 1889, les premiers visiteurs officiels de la Tour Eiffel étaient la famille royale d'Angleterre et aussi Buffalo Bill. Une autre info étonnante que j'ai lue, c'est que pendant l'hiver, apparemment, la Tour Eiffel rétrécit de 4 à 8 cm et quand les températures remontent, elle reprend sa taille originale. À 324 mètres de hauteur, elle reste à ce jour l'édifice français le plus haut et avec 7 millions de visiteurs par an en moyenne, la Tour Eiffel est le monument payant le plus fréquenté au monde. Et qui dit touriste dit achat de souvenirs, parapluie, poncho, boule de verre, mini porte-clés. 4 tonnes de souvenirs sont vendus chaque jour en haute saison. Ah, petite anecdote, romantique aussi. La Tour Eiffel voit des millions d'amoureux s'embrasser au troisième étage, mais pas seulement. Chaque jour, on dit qu'il y a en moyenne 2 demandes en mariage. Enfin, on pouvait craindre que la tour soit moins solide avec le temps, mais ce n'est pas le cas. Pendant la tempête de 1997, l'une des plus violentes en France du XXe siècle, son sommet n'a bougé que de 20 cm. Donc c'est bon, c'est du solide. Avec le temps, elle est devenue l'un des symboles de la capitale française. Impossible de ne pas penser à elle si on parle de Paris. Et vous, vous la trouvez belle, notre grande dame de fer ? Sure.